le journal Mireille Boukassa. Quatre personnes tuées et une dizaine d'autres blessées côté FRDC. Bilan des derniers combats à Minembwe dans le sud Kivu fourni par la MONUC hier mercredi. La mission onusienne ne dispose encore d'aucun bilan du côté des rebelles. Le don du gouvernement destiné aux expulsés congolais d'Angola au Kasaï occidental bloqué à Chikapa faute de moyens de transport. Polémique entre la mairie et les chauffeurs de taxi sur le prix de la course dans la ville de Matadi. Les chauffeurs augmentent le prix de la course, le nombre des passagers étant réduit. La mairie de la ville portuaire s'oppose à cette décision. Bonjour, 4 morts et une dizaine de blessés du côté des FRDC dans les derniers combats du 21 juillet à Minembwe au sud Kivu. La MONUC a dressé ce dernier bilan hier mercredi. Du côté des rebelles, la MONUC ne dispose encore d'aucun bilan. Son porte-parole militaire affirme que la situation est actuellement redevenue calme. S'agissant de la situation humanitaire, il déclare que la mission onusienne au Congo dispose d'une base mobile opérationnelle à Minembwe pour voler au secours des sinistrés. Le lieutenant-colonel de Brosse, porte-parole militaire de la MONUC, au micro de Jeff Ngoy.
Depuis le 21 juillet, la ville de Monrovia a été reprise par les FARDC. Cette ville était auparavant occupée par les dissidents, avec à leur tête le colonel Bisogo et surtout le major Rukumba. Ces dissidents ont fui la ville et ils se sont enfuis dans la direction de la forêt de Rugamba.
Quelles actions compte mener la MONUC pour le rétablissement de la paix dans cette partie de l'est de la RDC et surtout des dispositions humanitaires prises?
Bien, la MONUC dispose à une certaine distance, malheureusement donc à Minembwe, d'une base mobile opérationnelle à partir de laquelle peuvent être faites des patrouilles, sachant que une base mobile opérationnelle peut envoyer des gens pour une durée de 24 heures, c'est-à-dire une mission qui dure pendant environ 6-7 heures aller, plus 6-7 heures retour, ça fait à peu près la journée pour escorter des convois humanitaires. Il y a des protocoles qui sont mis en place pour que ce genre d'action soit réalisé.
Toujours en rapport avec le dossier Minembwe, notez que les notables, les représentants des églises, des ONG de cette cité du sud Kivu, se sont réunis mardi et mercredi dernier en présence de la MONUC. Les délégués à cette rencontre ont condamné la guerre dans cette partie du pays. Ils ont été unanimes, la guerre ne permet pas à une population d'avancer. Human Rights Watch, pas du tout satisfaite des résultats de l'enquête sur le trafic d'armes entre des casques bleus pakistanais et des groupes armés de l'Ituri. Dans une lettre adressée à Jean-Marie Guénaud, chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, cette ONG de défense des droits de l'homme estime que l'enquête menée par l'organisation OIOS était superficielle. Rappelons qu'une enquête indépendante a été ouverte après des allégations sur l'implication des casques bleus pakistanais dans le trafic d'armes contre de l'or avec des groupes armés de l'Ituri. Adia Chipuku revient sur les plaintes de cette ONG de défense des droits de l'homme.
Human Rights Watch est déçu des conclusions superficielles du rapport d'enquête. C'est en ces termes que cette ONG de défense des droits de l'homme exprime son insatisfaction. Dans sa lettre au chef des opérations de maintien de paix des Nations Unies, l'ONG reste critique sur l'enquête menée par l'organisation internationale OIOS. Elle déplore, je cite, « le manque de transparence, la lenteur et le manque continu de responsabilité » dans la réalisation de l'enquête, fin de citation. Et à l'ONG d'ajouter, nous sommes surtout inquiets du nombre limité des soldats impliqués dans ce trafic. Nous restons convaincus que plusieurs soldats ont été impliqués. Ce n'est pas tout. Human Rights Watch se dit aussi consterné par les déclarations de Jean-Marie Guénaud sur la radio britannique BBC. Selon elle, M. Guénaud a rejeté toute implication des casques bleus dans cette affaire, alors que le rapport de l'OIOS a cité au moins un officier pakistanais dans ce trafic. Tout en reconnaissant le rôle positif de la MONUC en RDC, Human Rights Watch exige des sanctions contre des casques bleus qui auront commis des infractions, ainsi que des enquêtes transparentes et rapides sur des éventuelles infractions commises par ces soldats de la paix.
Interrogé, le porte-parole de la MONUC affirme qu'il reste convaincu que l'enquête a été menée de façon rigoureuse. Pour lui, il faut se contenter de ce rapport. Kema Saiki, porte-parole de la mission onusienne au Congo, est au micro de Adia Chipuku.
L'enquête qui a été menée pendant plusieurs mois. Ça a été un travail qui a été fait de manière très rigoureuse. Il est évident qu'il y aura toujours des voix ou des institutions pour s'estimer pas satisfaite par les résultats de cette enquête, à moins qu'elle ne soit en mesure d'avancer de manière très certaine et prouver qu'elles ont des raisons sérieuse de douter de la crédibilité de cette enquête. Je crois qu'il faudra pour le moment nous contenter de ce qui a été établi, je le dis encore, de manière très rigoureuse.
Au Kasaï occidental, les 3 tonnes de médicaments envoyés par le gouvernement ne sont pas encore arrivées aux expulsés congolais venus d'Angola. Ces produits entreposés depuis 2 semaines à Chikapa doivent être expédiés dans les localités frontalières de Kamako, Tsumbula, Kabungu et Kamabanji où se trouvent ces expulsés. Les autorités de Chikapa évoquent des difficultés de transport pour expédier ces médicaments. Pourtant, ces Congolais expulsés ont grand besoin des produits pharmaceutiques, comme l'affirme Moringa Lwachoro, infirmier chef de l'aire de santé des Kabungu. Il est au téléphone de André Kambala.
Les expulsés ont des problèmes de santé. Nous avons certaines pathologies qui nous amène. Surtout, les infections sexuelles non transmissibles et puis les problèmes de paludisme, certains viennent avec des diarrhées. Et puis là, ces expulsés manquent même de places où on peut les loger. Au centre, la capacité d'accueil ne permet pas. Je n'ai pas de matelas. Je ne sais pas comment je peux les encadrer. Ces médicaments sont au niveau du bureau central de notre zone de santé, comme on a mis jusque-là. Les autorités de Kamonyan ne m'ont pas appelé. J'ai causé hier avec une de nos autorités, on m'a dit que je fasse un effort, chercher un moyen de transport pour aller prendre ce médicament. Mais moi, je ne dispose pas de moyen de transport ici. Comment je peux quitter ici jusqu'à Kamonyan, qui a une distance de 75 km pour aller transporter, ou soit louer les Bayamba? Je vais les louer avec quel fonds?
Dans la province du Maniema, l'Association pour la promotion et la défense des droits des enfants et des femmes dénonce le comportement des propriétaires des concessions qui empêchent aux paysans de cultiver dans leurs parcelles. Cela se passe dans la chefferie des Bangengele en territoire de Kailo. Selon la PRODEF, les propriétaires qui acceptent ces villageois les obligent à leur remettre une partie de la récolte, pratique que les paysans n'acceptent pas du tout. Conséquence, la plupart de ces villageois se retrouvent sans terre cultivable, ce qui, selon l'ONG, accentue la pauvreté dans cette partie du Maniema. Le vice-ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage a rencontré ce mercredi à Mbandaka les responsables des associations, des maraîchères, des pêcheurs et des revendeuses des poissons. Ngobila Mbaka effectue depuis dimanche dernier une mission d'évaluation du projet Programme de relance agricole pour la province de l'Équateur. Ce projet financé par le Fonds international pour le développement agricole est déjà opérationnel depuis 1 année à Bumba. Le vice-ministre Ngobila Mbaka nous donne les objectifs que poursuit ce projet dans la province de l'Équateur. Il est au micro d'Askenzik Biataero.
C'est celui d'assurer la sécurité alimentaire des populations paysannes. C'est un projet qui a aussi un volet social très important. C'est un projet environ de 22 600 000 dollars, rien que pour la province de l'Équateur, rien que pour les territoires de Bumba. Le projet PRAPE compte construire environ 35 écoles et réhabiliter 20 écoles qui sont en état de délabrement. Le gouvernement est en train d'élaborer un code et aussi un cadastre agricole dans lesquels le volet crédit sera spécifié. Et d'ores et déjà, je vous dis qu'il est prévu de coopératives d'épargne et des crédits pour l'agriculture. C'est une question de temps. Je demande aux mamans marieuses ainsi qu'aux pêcheurs d'être patients. D'ici là, donc, ils pourront accéder au crédit dans des conditions très favorables.
Il faut dire que déjà à Bumba, le programme de relance agricole pour la province de l'Équateur a créé un champ pour la distribution des semences saines aux paysans et à Mbandaka, quelques pêcheurs et paysans regroupés dans des associations ont bénéficié des intrants agricoles et de pêche de ce projet. Première audience hier mercredi du procès qui oppose le gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta, aux propriétaires des maisons détruites sur le site Tembena Tembe à Kinshasa. La partie civile souhaite qu'aucune activité de vente ou de construction ne soit entreprise sur ce terrain avant la fin du procès. L'audience est déroulée au tribunal des grandes instances de la Gombe. Quel était l'essentiel de cette audience, Innocent Lenga?
Statuer sur les mesures conservatoires sur le terrain querellé, mesures sollicitées par les avocats de la partie civile. L'un de ces avocat, Maître Nsilou Matondo, explique leur démarche.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on fasse autre chose à cet endroit-là en attendant que l'affaire soit vidée. Parce que lorsqu'on détruit, parfois on apprend qu'on veut vendre à une tierce personne, parfois on apprend qu'on veut faire d'autres constructions. Pendant ce temps, aucune activité ne peut être menée, aucune vente, rien ne peut être fait au niveau de ce terrain-là.
Ces avocats de la partie civile ont demandé au juge de rejeter de tous les moyens exceptionnels soulevés par les avocats avocat de la défense, ces derniers sollicitaient l'annulation de l'action menée contre Messe Kimbuta pour mauvaise orientation de la requête, signalant que les personnes dont leurs maisons ont été démolies sur les sites Tembe-Natembe ont introduit une assignation en dommages-intérêts contre l'hôtel de ville et les gouverneurs André Kimbuta en premier lieu et la République démocratique du Congo en second lieu. Après les interventions des uns et des autres, le tribunal a pris l'affaire en délibéré. C'est après que les ministères publics lui aient demandé de tenir compte des mesures conservatoires sollicitées par la partie civile. Le tribunal a donc 15 jours pour se prononcer.
Suite du procès Serge Maheshe à Bukavu, l'audience avait brièvement repris hier mercredi avant la descente sur terrain pour reconstituer les faits. Jean Kassami, qui suit ce procès, retrace ici la démarche du tribunal.
Tout a commencé par le bar Chekidos, désigné comme lieu de conspiration par les présumés assassins. Ensuite, le tribunal ainsi que les autres parties se sont rendus dans un dépotoir où Freddy Dissimoa et Matakila Ruezangabo disent qu'ils avaient caché l'arme qu'ils ont utilisée pour assassiner Serge Maheshe. Jusqu'au lieu du crime, en passant par le bar La Croisière, les deux présumés assassins sont restés constants dans leurs déclarations. Ils ont été conduits un après l'autre aux différents lieux supposés avoir servi de repère à la date du 13 juin 2007. À chaque endroit, ils ont fourni les mêmes détails jusqu'au plus moindre. Par exemple, la tenue vestimentaire d'Alain Moulin de ce jour-là, celui que les deux présumés assassins ne se spécifiaient comme commanditaire. La plaidoirie pourra intervenir ce jeudi sauf changement de dernière minute, a-t-on appris du président du tribunal militaire de garnison de Bukavu. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Et à la dernière minute, nous apprenons que le tribunal a renvoyé la prochaine séance du procès à vendredi matin. Le ministère public prévoit de prononcer son réquisitoire au cours de cette séance. Et puis cette incompréhension entre les chauffeurs des taxis et la mairie de Matadi dans le Bas-Congo au sujet des dernières mesures prises par le ministre des Transports, précisément par rapport au tarif d'une course en taxi. Le taximen a décidé de faire passer le prix de la course de 150 à 200 francs congolais depuis samedi dernier. La population de la ville portuaire crie au non-respect des instructions de la mairie de maintenir le tarif à 150 francs congolais pour des petits trajets et 200 pour des longs trajets. Les chauffeurs justifient cette hausse par le fait que le nombre des passagers qui passent de 6 à 4 personnes entraîne un manque à gagner. Dani Kindanzita décrit la situation.
Les conducteurs sont obligés de prendre à bord de leur voiture seulement 4 personnes au lieu de 6. À cela, il faut ajouter les ports obligatoires de la ceinture de sécurité. Ces instructions ont été portées à la connaissance des conducteurs samedi dernier, à l'issue de la rencontre entre la mairie, les propriétaires de véhicules et les membres de l'association des chauffeurs du Congo, ASECO Bas-Congo. Le président de cette section a affirmé que ses membres vont se conformer à ces nouvelles instructions. Mais sur le terrain, les chauffeurs de taxi s'opposent au prix proposé par le maire de la ville de Matadi, soit 150 francs congolais pour le petit trajet. Il déclare que le nombre de passagers étant réduit, toutes les courses reviennent à 200 francs congolais. Mais Jean-Marc Nzeri de Lukombo persiste. Le coût de transport urbain reste le même, c'est-à-dire 150 francs congolais le court trajet. Une semaine de sensibilisation a quand même été décrétée pour l'application effective de ces mesures. Matadi, Dani Kindanzita, Radio Okapi.
Une seule nouvelle en page internationale, le Sénégal et le Gabon sont deux partenaires extrêmement privilégiés de la France sur le continent africain et ce sera l'occasion pour le président de réaffirmer l'amitié profonde et sincère de notre pays pour l'Afrique et pour les Africains, a déclaré son porte-parole. Selon David Martinon, le président français réaffirmera notamment que le développement de l'Afrique est une de ses priorités diplomatiques. Il aura l'occasion d'expliquer ce qu'il entend faire dans ce domaine lors d'un discours qui prononcera ce jeudi à Dakar. C'est à Dakar que Nicolas Sarkozy, alors ministre d'État, ministre de l'Intérieur, avait signé un accord de gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, le premier du genre au sein de l'Union européenne. Et c'est par ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.